Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente de venir présenter mon livre aujourd'hui au Centre Paraître et Société. Donc ce livre, effectivement, c'est une version très édulcorée et réduite de la thèse qui a été publiée donc, très récemment et qui, en gros, extrait des bouts de la thèse et une montée en généralité un peu plus importante encore que la thèse. Donc, pourquoi donc, les Mobile for Development ou Mobile Development, j'ai traduit par les mobiles du développement. En fait, qu'est-ce qui m'a intéressée pendant cette thèse et puis encore aujourd'hui avec mes travaux postérieurs à la thèse, c'était donc cette idée qu'avec la généralisation du téléphone portable dans les Suds, en gros, les outils numériques via le mobile ont fait l'objet d'un intérêt croissant des acteurs de l'aide internationale, des très grosses fondations internationales qui financent l'aide au développement, qui sont venues positionner la technologie numérique par le mobile notamment, comme un moteur de croissance, mais aussi une solution à de nombreux problèmes dans les pays en développement, des problèmes sociaux, des problèmes d'inégalité. Bref, le mobile était devenu la réponse à de nombreux enjeux de développement. C'est un phénomène qui est très récent, c'est un phénomène qui est devenu de plus en plus important, on va dire, à partir de 2014-2015. Je vous donne ici un exemple. Le rapport, pour vous donner un exemple, ça c'est le rapport de la Banque mondiale sur le développement dans le monde qui est publié chaque année par la Banque mondiale. Et comme vous pouvez le voir en 2016, ce rapport il est consacré uniquement aux dividendes du numérique. C'est-à-dire, en gros, ce que dit la Banque mondiale, c'est, vous pouvez le voir sur la citation de la phrase d'ouverture du rapport, c'est que dans les pays en développement, les gens n'ont pas accès à l'eau, à des toilettes ou à des conditions décentes de vie, mais par contre, ils ont accès à un téléphone portable et c'est donc par ce biais qu'on va réussir à répondre à de nombreux enjeux de développement. Donc ça, c'est un exemple. Donc 2016, c'est vraiment une année où on se rend compte que le téléphone portable va venir vraiment résoudre énormément de problèmes dans les pays en développement et va venir se connecter sur un nombre très important de programmes de développement. Au sein de ces programmes de développement, il va y avoir des pays qui vont être jugés comme des pays pilotes, des pays qui vont être ciblés par ces programmes. Donc je vous donne ici une carte qui a été faite, donc pareil, en 2016 par la GSMA, qui est l'organisme international qui représente les industriels du numérique. Et comme vous pouvez le voir, les pays dans lesquels il y a des programmes nationaux de développement par téléphone portable en 2016, on a une concentration très forte sur 5 pays, le Ghana, le Nigeria à l'ouest, le Kenya et la Tanzanie en Afrique de l'Est, et l'Inde. Je suis allée faire des terrains donc dans 3 de ces 5 pays. J'ai fait donc ma thèse au Ghana et en Inde. Puis ensuite, j'ai travaillé en post-doctorat, puis après au Kenya et à nouveau en Inde. Et je suis postée en Inde depuis maintenant 2 ans. Donc, pour déployer cette enquête MoTeC, j'ai d'abord ciblé donc ces pays qui étaient particulièrement touchés par ces programmes. Et donc, le premier endroit où je suis allée, c'est au Ghana. Et c'est là que j'ai découvert le programme MoTeC, qui est en fait l'enquête au centre du livre « Les mobiles du développement ». Il faut savoir que au sein des programmes de M-Développement, il va y avoir une concentration plus importante de programmes qui concernent la santé. Les 2/3 des programmes de M-Développement à cette époque-là sont consacrés aux enjeux de santé parce que c'est considéré comme un champ prioritaire, parce qu'il y a des financements, parce qu'il y a des financeurs qui se centrent principalement sur la santé, comme par exemple les fondations des très gros laboratoires pharmaceutiques. Et donc, on va se retrouver avec pléthore de projets de mobile development consacrés à la santé. Quand je suis arrivée au Ghana en 2014, il y avait une 20aine de programmes de M-Santé qui étaient déployés sur le Ghana, qui est un tout petit pays d'Afrique de l'Ouest, et qui était vraiment considéré comme le lieu idéal pour déployer des programmes de M-Santé. Parce que c'est un pays d'Afrique de l'Ouest qui est stable, qui économiquement est assez solide, qui avait aussi un niveau de déploiement du téléphone portable bien plus élevé que les autres pays d'Afrique de l'Ouest en 2014. C'est un pays anglophone et c'est un pays qui fait moins peur aux investisseurs que par exemple le Nigeria, qui est juste à côté, mais qui est quand même le marché qui est ciblé après. Donc le Ghana, c'est vraiment le petit pays pilote dans lequel on va déployer et tester ces programmes de développement. Alors au sein des programmes de M Santé, je me suis penchée sur la santé maternelle, parce que comme vous pouvez le voir dans ce rapport de Johns Hopkins qui date de 2016, c'est le premier domaine de santé qui est ciblé par ces programmes de M Santé. Donc on va avoir une concentration plus importante de programmes qui ciblent les femmes enceintes et en gros les enfants dans leur première année de vie. Donc je me suis retrouvée à étudier donc un programme de santé maternelle par téléphone portable, le programme MoTeC, qui aujourd'hui est une des plateformes les plus utilisées pour déployer des projets de M Santé dans les pays du Sud. Aujourd'hui, cette plateforme elle est utilisée dans une vingtaine de pays du Sud pour développer des programmes de santé maternelle, mais pas que. D'autres types de programmes de santé, puisque depuis la plateforme en gros a été consolidée et donc diffuse d'autres types de messages, enfin, on va en parler, mais du coup, ça, tout a commencé au Ghana, comme je vais vous en parler. Et pour vous illustrer un peu ce que fait MoTeC, je vais commencer par une histoire toute simple. Donc, cette histoire, c'est celle de Samia, qui travaille dans les champs derrière sa maison, et son téléphone portable sonne. Elle décroche et elle va écouter le docteur Anita qui l'encourage à aller à l'hôpital pour sa dernière consultation anténatale. Samia n'a jamais accouché à l'hôpital, mais incitée par la travailleuse de santé de son village, elle paye pour recevoir ce message. Docteur Anita est une voix enregistrée sur une plateforme qui est hébergée aux États-Unis. Elle est le personnage central du programme MoTeC qui est mis en œuvre par la Fondation Gates en partenariat avec les gouvernements de plusieurs pays du Sud. Donc cette histoire n'est pas fictive. J'ai rencontré de nombreuses femmes en Inde et au Ghana qui, comme Samia, n'avaient ni électricité, ni eau courante, ni toilette dans leur maison, mais possédaient un téléphone portable et devenaient par ce biais les cibles de nouvelles politiques de développement dont la technologie mobile est l'instrument central. Donc souvent entreprises au nom de la lutte contre la corruption ou pour améliorer les services publics jugés défaillants, ces initiatives, elles vont reconfigurer l'État, mais surtout les droits d'accès, le périmètre et l'accès aux services de santé. Donc ce livre et donc toute la réflexion qui est développée dans ce livre, elle est partie de trois questions principales. C'est d'abord qui gouverne ces politiques digitales. Ensuite, comment est-ce que ces programmes de développement vont venir transformer les institutions de santé et les pratiques de santé. Et enfin, comment est-ce que ces programmes sont reçus, ignorés ou contestés par des personnes comme Samia qui sont censées en bénéficier. Donc l'application mobile utilisée par Samia, MoTeC, c'est l'objet principal d'analyse, qu'elle soit utilisée donc au Ghana ou en Inde, c'est la même plateforme technique, on verra les variantes, il n'y en a pas tant que ça. Et donc à travers l'étude de ce programme, l'idée du livre, c'est vraiment de se concentrer sur des processus de globalisation médicale qui vont prendre naissance à travers la technologie numérique et qui vont avoir des impacts multiples sur à un niveau international, sur les financeurs de l'aide au développement, à un niveau national, sur les services de santé et les ministères de la santé, puis à un niveau local, sur les personnes qui sont censées en bénéficier. Donc, juste très brièvement, je ne vais pas développer énormément, mais le programme MoTeC, donc, comme je vous le disais, il a une variante ghanéenne qui s'appelait Mobile Midwife de 2010 à 2014. Comme je vous le disais, donc, le Ghana, c'est un petit pays, on est sur 25 millions d'habitants. Et on en parlera plus tard, mais ça va avoir des conséquences sur les façons dont le programme a été déployé. À droite, vous avez Kilkari, donc c'est la version indienne, en hindi, qui est donc la langue principale de l'Inde, mais qui est surtout parlée dans le nord. Une fois le test ghanéen réalisé, la plateforme va être utilisée donc au Bihar, qui est un des États les plus pauvres de l'Inde, avec la mortalité maternelle et infantile la plus importante du sous-continent. Et là, on est sur un très gros état, on est sur 104 millions d'habitants. Donc, en gros, un test beaucoup plus lourd pour la plateforme MoTeC. Donc, il s'agit de messages vocaux hebdomadaires qui sont envoyés en langue locale à des femmes enceintes et à des jeunes mères. C'est des conseils sur la grossesse, la santé des enfants, dispensés donc par une voix qui est associée à un docteur. Et c'est un système donc d'IVR, donc c'est comme un répondeur distant, et les femmes interrogent ce répondeur ou reçoivent un appel de ce répondeur, écoutent les messages. Les inscriptions sont faites au dispositif par des travailleurs de santé, et ces travailleurs de santé ont des obligations de remplir des formulaires par téléphone portable pour renseigner des informations sur les femmes qui après vont conditionner le type de message qu'elles reçoivent, mais aussi le type d'analyse que la plateforme est capable de faire sur les données de santé qui sont remplies par ces travailleurs. Les différences entre les deux programmes, il y a une différence de langue, donc les langues qui sont sur la plateforme ghanéenne ne sont pas les mêmes que sur la plateforme indienne. Le service était gratuit au Ghana, alors que dès le départ, quand il est arrivé en Inde, les femmes devaient payer une roupie par message écouté. La différence aussi, c'est qu'au Ghana, n'importe qui pouvait taper un numéro depuis n'importe quel téléphone pour pouvoir écouter ces messages. Alors que pour MoTeC Inde, comme il faut payer ce message, c'est uniquement un numéro qui a été enregistré et qui, en gros, sur lequel on prélève ses roupies par le forfait téléphonique. Donc voilà, ça c'est les deux grosses différences. Je vais juste très brièvement vous parler du terrain. Donc le terrain ghanéen a été fait donc dans deux districts différents du Ghana. Pour ceux qui connaissent le Ghana, c'est le sud du Ghana, puisque c'est là qu'a été déployé en format pilote le projet. Il y avait 30 000 femmes inscrites au dispositif MoTeC. J'ai rencontré donc 15 administrateurs de la plateforme, 19 travailleurs de santé qui devaient enregistrer les femmes à la plateforme et une centaine de femmes dans différents villages de ces deux districts. Côté indien, donc comme je vous le disais, on est sur 104 millions d'habitants Bihar, 150 000 femmes inscrites à la plateforme. Pareil, deux districts du Bihar qui ont été choisis parce que c'était les districts dans lesquels il y avait le plus de femmes qui s'étaient enregistrées au dispositif. J'ai rencontré 21 administrateurs de la plateforme, 29 travailleurs de santé en charge d'inscrire les femmes et 99 femmes inscrites au dispositif. Voilà pour être clair sur les terrains. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de tout ça? Ça, c'est le sommaire du livre. J'ai pris donc cet objet, la plateforme MoTeC, par plusieurs bouts. Il y a bien des façons de raconter hein, l'histoire de MoTeC. C'est un objet très chevelu. Et pour aujourd'hui, en gros, j'ai décidé d'explorer à la fois la version, on va dire, de Bill, et la version de Samia de l'histoire de MoTeC, en me concentrant donc, sur les chapitres 3, donc sur les dépendances globales et les inégalités nord-sud, et sur le chapitre 6, qui est vraiment consacré aux inégalités locales et en gros à la façon dont le dispositif est reçu et entraîne des inégalités particulières pour les femmes. Je ne vais pas parler des chapitres 4 et 5 qui sont consacrés aux travailleurs de santé, à la gestion des données par les travailleurs de santé, mais on pourra en parler dans le Q&A si vous avez lu le livre. Mais voilà, en gros, j'ai décidé pour le temps imparti de me concentrer donc, sur ces deux chapitres. Le chapitre 6 est particulièrement consacré aux inégalités de genre, puisque c'est une plateforme qui cible les femmes. Et que ça va avoir des conséquences sur la façon dont le dispositif est déployé. Donc, ce programme MoTeC, il promet, comme je vous l'ai dit, une amélioration des conditions de la santé maternelle dans les pays en développement. Il prône aussi un accès universel et équitable au savoir sur la maternité qui serait permis par le téléphone portable, qui serait accessible à tous et qui donc deviendrait un outil neutre qui permettrait d'améliorer la santé de ces femmes. Donc il y a on va dire qu'il y a la version très prometteuse qui est celle de la fondation Bill & Melinda Gates et puis il va y avoir la version plus concrète de Samia. Donc je vais commencer par la version de Bill. Et donc ce chapitre 3 sur les dépendances globales et les inégalités nord-sud. Et je me suis posé trois questions et vous allez le voir, j'y réponds dans le développement. C'est d'abord qui possède ces technologies qui sont proposées par ces programmes de développement. Ah, on ne voit pas la présentation, sinon.
Si, non, c'était juste, il y avait la colonne, elle avait mis ça là-bas.
Ensuite, les pays du Sud ont-ils la possibilité de modifier la forme et le contenu des dispositifs? Et enfin, de les maintenir dans le temps? Donc, le chapitre 3 répond à ces différentes questions. Et en gros, ce sont des questions qui ont traversé l'enquête. Donc, qui possède les technologies? Le projet MoTeC, c'est un PPP, un partenariat public-privé global, qui, comme vous pouvez le voir ici, est avant tout géré par la Fondation Gates, la Fondation Grameen et Dimagi, on va dire des fondations privées issues notamment des technologies numériques. C'est eux qui possèdent le programme global et ensuite, en fonction des déploiements, ils vont créer d'autres partenariats publics-privés pour associer des gouvernements, des ministères, en fonction des lieux d'application du programme. Donc, dans MoTeC Ghana, ils vont s'associer au ministère de la Santé ghanéen et avec l'opérateur principal du Ghana, qui est MTN Ghana. Et ils vont développer différentes applications qui seront les versions ghanéennes de l'application, donc Mobile Midwife pour envoyer des messages et la Nurse App pour rentrer des informations de santé. Donc 2010-2014 le Ghana, puis 2012, on arrive en Inde, on a encore la fondation Bill & Melinda Gates. Là, on fait rentrer l'État du Bihar et le département de la santé du Bihar. Et on fait entrer un nouvel acteur qui est une nouvelle fondation privée, qui est la fondation de la BBC, qui va se charger du déploiement concret en plus de la fondation Grameen, qui reste l'opérateur technique qui va rester là tout le long du projet. Et puis, on a donc trois applications mobiles qui sont déployées. Kilkari, qui est la même chose que Mobile Midwife, mais on a deux variantes. Mobile Kunji, qui est une version des messages qui est déployée par des systèmes de cartes. Et puis, Mobile Academy, qui est en plus donc des travailleurs de santé, en plus de devoir rentrer de l'information, vont recevoir eux aussi des messages pour les former mieux et pour mieux prendre en charge mieux les femmes. À partir de 2015, il y a un projet d'extension nationale en Inde, donc là, nouveau partenariat, et on va étendre, on n'est plus uniquement avec l'État du Bihar, on est avec le gouvernement indien, le ministère de la Santé centrale, avec un déploiement dans quatre autres États indiphones du nord de l'Inde. Et là, on conserve uniquement les applications Kilkari, donc qui est donc les messages vocaux, et Mobile Academy, la version professionnelle de santé, l'autre version avec les cartes disparaît. Donc, ce qui est important de voir dans ce partenariat, c'est l'importance des entreprises et des fondations issues des technologies de l'information et de la communication. La fondation Gates, donc, c'est la version philanthropique de Microsoft. La fondation Grameen, c'est une fondation qui a été développée sur les principes du microcrédit et de la microfinance Grameen. C'est une fondation américaine. Il ne s'agit pas du tout de la banque Grameen du Bangladesh. C'est une fondation qui a été développée dans l'idée de déployer des services de microcrédit et de microfinance dans les pays en développement. C'est l'opérateur technique qui va déployer la plateforme MoTeC dans les deux pays. Et c'est un opérateur qui n'est pas du tout au courant des questions de santé dans les pays en développement. Donc l'idée, c'est bien de déployer une plateforme qui peut-être répondra à des questions de santé au départ, mais l'enjeu est bien plus large. C'est une plateforme qui doit pouvoir être utilisée pour envoyer n'importe quel type de message, générer des flux d'informations, quelle que soit l'information. Donc, comme je le dis dans ce chapitre, on a une présence très importante de fondations philanthropiques. Et notamment, est-ce que ça cache aussi? Notamment la fondation Bill & Melinda Gates. Donc, la philanthropie, c'est une générosité qui est devenue incontournable dans les pays en développement, particulièrement sur les questions de santé. Aujourd'hui, c'est 11% du budget de l'OMS. Donc, après les États-Unis, c'est le deuxième financeur de l'OMS dans le monde. La fondation, c'est le premier financeur de la recherche sur les maladies infectieuses. Donc, les maladies infectieuses, c'est le premier budget dans les pays en développement. Donc, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, comme le dit Anne-Emmanuel Byrne, qui est une historienne canadienne, que Bill & Melinda Gates, c'est un peu devenu l'acteur le plus influent sur les questions de santé. C'est un agenda setter, donc c'est eux qui décident en gros des nouveaux enjeux en termes de santé globale. Et c'est tout à fait le cas d'un projet comme le projet MoTeC, puisque le projet MoTeC, il est lancé et financé à partir de 2010, et c'est le premier programme de M-Santé qui est développé comme ça dans les pays en développement. Donc il répond en gros à toute cette idéologie de la Fondation Bill & Melinda Gates que j'ai résumée par capitalisme créatif et solutionnisme technologique. Donc, capitalisme créatif, parce que Bill Gates le dit et le répète, il faut que les pays en développement puissent bénéficier de tous les avantages du capitalisme, que c'est grâce au capitalisme que les pays développés se sont développés, et donc il faut que les exclus du capitalisme soient intégrés dans ce capitalisme, et pour ça, il faut créer des nouveaux marchés hein, qui sont accessibles aux pauvres. Et donc, pour réduire la pauvreté dans le monde de manière durable, ce qu'il faut, c'est créer des business qui génèrent des profits, mais qui sont des business qui ciblent les pauvres. Donc c'est ça le capitalisme créatif, c'est comme ça que l'appelle Bill Gates, qu'on associe à un solutionnisme technologique. Là, on voit Melinda Gates à l'Assemblée mondiale de la santé en 2014 qui dit « We will always do this work because we despise inequity and because we believe in the power of innovation to solve problems ». Donc, la Fondation Gates, qui teste, c'est des innovations technologiques qui vont répondre à des questions et des enjeux de santé, agricole, enfin sur différentes thématiques. Et donc, l'idée, c'est vraiment de résoudre des problèmes, et ici, en l'occurrence, de résoudre des problèmes de santé et des problèmes de santé maternelle. Donc, on a une double mission de la Fondation, c'est faire des profits, c'est-à-dire créer des business qui sont durables dans le temps et aider pour ça. On pourra en reparler, hein, mais c'est le cas pour la Fondation Gates, c'est qu'ils financent avant tout et surtout d'autres fondations, par exemple les fondations des très gros opérateurs téléphoniques, comme la Fondation Vodafone ou la Fondation MTN dans le cas de Montec, mais aussi directement des business, donc des grosses entreprises du numérique comme Dimagi et tout ça, qui vont être bénéficiaires de ces grants à hauteur de plusieurs millions de dollars. Donc on cherche vraiment à installer des business du numérique et surtout on va améliorer la vie des exclus du marché en les incluant. Donc il faut réussir à vraiment développer des marchés viables destinés aux pauvres. Donc je vous parlais donc il possède les technologies et l'autre partie du chapitre est consacrée aux inégalités nord-sud que cela génère, puisque donc il y a des dépendances vis-à-vis de ces financeurs qui possèdent les technologies et qui financent ces programmes, mais il y a des mécanismes concrets pour empêcher les pays du Sud de pouvoir faire, donc en répondant à mes deux questions, c'est-à-dire de pouvoir s'approprier ces technologies, les modifier, les maintenir dans le temps. Donc moi, j'ai développé dans ce chapitre, on va dire, quatre gros points qui, pour moi, démontrent des inégalités nord-sud qui sont associées à ces plateformes mobiles. Ces points concernent les savoirs et les savoir-faire, les enjeux de propriété, l'interopérabilité des systèmes et surtout les coûts des dispositifs. Je vais très brièvement vous présenter ces quatre points. Donc d'abord, le premier enjeu d'inégalité, c'est qu'en permanence, les acteurs comme la Fondation Gates ou la Fondation Grameen, donc qui sont en charge de déployer des dispositifs, disent qu'il n'y a pas de capacité technique au Sud et que c'est pour ça qu'ils sont propriétaires de ces plateformes. Donc là, je vous ai mis des citations au Ghana et en Inde, où en gros, le ministère de la Santé ghanéen dit qu'ils n'ont pas la main sur les dispositifs parce qu'ils n'avaient pas la capacité interne, soi-disant, de développer les logiciels, de les prendre en main et de les améliorer. Donc eux, c'est ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, le ministère de la Santé, eux, ce qu'ils veulent, c'est développer ses capacités et pouvoir gérer les logiciels. Ça n'a pas été possible, ils n'ont pas réussi à le faire dans le cadre de Motec, et donc ils ont abandonné le partenariat, et le ministère ghanéen s'est retiré du partenariat pour justement développer un outil interne, et aujourd'hui, ils ont développé à partir du DIMS un programme qui est entièrement géré par le ministère. Donc eux, ils se sont complètement retirés. Et le ministère de la Santé indien, là, on est quand même face à un mystère parce que l'Inde, il y a pléthore d'ingénieurs informatiques. On est quand même dans le pays du monde qui exporte le plus d'ingénieurs informatiques. Et pourtant, quand la plateforme arrive en Inde, on estime qu'ils n'ont pas les capacités en interne pour gérer le dispositif technique qui reste géré aux États-Unis par la Fondation Grameen. Et le ministère indien dit dès le départ qu'ils auraient eu la capacité de le gérer en interne, mais que comme ça tournait sur des serveurs aux États-Unis avec des dispositifs qui était géré aux États-Unis, qu'en gros, ils n'avaient pas, on va dire, les spécifications précises pour pouvoir le faire. Donc, dans les deux cas, on a vraiment une fermeture de l'objet technique pour ne pas transmettre les savoirs et les savoir-faire autour des logiciels qui font que on va vraiment être sur un dispositif qui reste géré exclusivement par les fondations privées. Ça va poser des problèmes pour le Ghana, je vous le dis, ça va être une des raisons pour lesquelles le pays se retire du partenariat. Et bizarrement, ça ne pose pas de problème pour l'Inde et ils vont développer le dispositif en continuant à ne traiter qu'avec les fondations privées. Là, je vous ai mis une citation d'un chercheur qui a travaillé énormément sur la fracture numérique et qui dit qu'en fait, en mettant en place ces types de fermeture de l'objet technique, en disant que les Suds n'ont pas ces capacités techniques, en fait, on crée un régime de dépendance vis-à-vis de l'Ouest, enfin, du Nord. Et qu'en fait, ces régimes technologiques, les standards internationaux qui sont mis et qu'on impose aux pays du Sud rendent impossible ce transfert en quelque sorte. Et ça reste une excuse récurrente où on dit que les pays du Sud n'ont pas les capacités et ne peuvent pas gérer ces plateformes. Et donc ça crée une inégalité Nord-Sud qui est encore vraie aujourd'hui, même pour les pays comme l'Inde, dans lesquels il y a des capacités de développement numérique très importantes. Le deuxième point que je voulais aborder brièvement, c'est celui de la propriété et de l'open source. Donc, dès le départ, les gens de la Fondation Grameen balayent la question de la propriété en disant il n'y a pas de problème de propriété avec Moutec puisque c'est un logiciel open source, vous n'avez qu'à aller sur Internet et le télécharger et tout va bien. Et en fait, quand j'ai fait l'enquête, bien entendu que tout le monde m'a dit, eh ben, c'est impossible de récupérer ce logiciel, c'est incompréhensible la façon dont la plateforme a été développée, et en gros, il faut expliquer comment fonctionne la plateforme pour pouvoir s'en saisir. Or, la Fondation Grameen n'a pas mis en place ce dispositif de formation et de transfert des savoirs autour de la plateforme open source, et tous les acteurs que j'ai rencontrés des deux pays disent, les données appartiennent à la Fondation Grameen, la plateforme appartient à la Fondation Grameen et elles utilisent les données et la plateforme pour d'autres pays. Donc là, le Ghana qui dit comme l'Inde, mais après, on verra dans d'autres pays comme la Tanzanie, par exemple. Donc cette histoire de propriété versus open source, je le développe un peu dans le livre, c'est vraiment, on se cache derrière l'open source et on recrée en fait de la propriété à travers la complexité de la plateforme et de la non-explication autour de l'open source. Ensuite, l'autre question que je développe dans ce chapitre, qui permet donc de créer ces inégalités Nord-Sud, c'est la question de l'interopérabilité et du cloisonnement numérique. C'est qu'en fait, dès le départ, quand ils arrivent dans ces pays avec la plateforme, il y a des dispositifs d'information de santé numérique qui sont déjà en place dans les pays. Comme je vous le disais, notamment le DIMS au Ghana, mais aussi le MCTS, donc qui est la plateforme équivalente en Inde. Ils arrivent là et à aucun moment ils cherchent à rendre interopérables leur application avec les systèmes d'information de santé qui sont existants dans les deux pays. Et donc ça a des conséquences très concrètes. Toutes les données de santé qui sont collectées par les travailleurs de santé, qui sont payés par l'État ghanéen ou indien, ne viennent pas alimenter les bases de données nationales d'information de santé. On est sur un silo et donc les bases de données ne sont accessibles que par les fondations, pas par les ministères et en plus les données qui sont rentrées par ces plateformes ne viennent pas alimenter les bases nationales. Donc on est vraiment sur une inégalité flagrante, on fait travailler des travailleurs de santé locaux à l'alimentation de bases de données inutilisables pour les pays. Donc le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est la question des technologies low cost. En gros, ce qui est mis en avant en permanence, c'est vous allez faire des économies si vous faites de la santé numérique. C'est des dispositifs qui coûtent beaucoup moins cher que les dispositifs traditionnels de santé. Et bien entendu, quand j'ai fait mon enquête, ça a été très difficile de réussir à avoir des idées de ces coûts. Parce qu'on a des grants successives. Donc chaque année, on a de l'argent qui rentre. J'ai additionné toutes les grants pour le dispositif Motec. On arrivait quand même à 90 millions de dollars dépensés pour ces applications mobiles. Oh, c'est considérable hein, pour on va dire, un dispositif d'information de santé qui envoie des messages vocaux à des femmes et qui collecte de la donnée de santé. Et en fait, ces coûts, ils sont jamais mis en avant. Comme vous pouvez le voir dans cette situation, par exemple à Delhi, en gros, je demande Combien est-ce que, par exemple, la fondation de la BBC a touché 28 millions de dollars pour développer donc la version indienne des messages de l'application. Et donc, ils nous disent tous les coûts qu'il y a, donc les IVR costs, les coûts de maintenance, machin et tout. Et moi, je leur dis, OK, mais donc sur les 28 millions que vous avez touchés, il y en a combien, en fait, qui étaient consacrés aux technologies? Et là, on me dit, ah, mais non, on ne sait pas ça. On n'est pas capable de dire, en fait, combien cette technologie coûte. Et en fait, ce coût assemblé, on n'a pas de visibilité dessus. Donc moi, j'ai essayé juste de regarder sur des coûts qui sont publics et pour lesquels on avait de la visibilité. Et en l'occurrence, c'est les coûts de connectivité. Donc en fait, les coûts de connectivité, c'est que ce que le dispositif coûte auprès des opérateurs téléphoniques. Donc pour envoyer les messages vocaux, collecter de l'information de données qui remonte par les formulaires. Et donc, en fait, ça, c'est des coûts qui sont transparents. Donc, c'est un peu les seuls. Et donc, quand j'ai fait l'analyse des coûts pour, par exemple, l'exemple du Ghana, je me suis rendu compte que, en fait, ben, c'est simple. Juste pour pouvoir envoyer ces données de santé et pour pouvoir écouter des messages, donc un message hebdomadaire pour les femmes, il faudrait, en gros, que l'État ghanéen mette 8 dollars sur la table juste pour financer ses coûts de connectivité. Donc, je ne parle pas de dispositif, hein, je parle juste de la connectivité, c'est-à-dire des datas qui sont facturées par l'opérateur national, MTN. C'est donc, on est sur un coût qui est astronomique, sachant que actuellement l'État ghanéen, il consacre 30 dollars par tête de pipe au Ghana. Donc, quand vous parlez de 8 dollars hein, juste pour envoyer, payer de la data pour des messages, on n'est pas du tout sur de la technologie low cost. Et ça, c'est très important. Il faut faire des études qui démontrent qu'en fait, ce sont des dispositifs techniques qui sont très chers. Et c'est difficile à démontrer. J'ai fait d'autres enquêtes plus tard sur d'autres sujets consacrés à ça et on pourra en parler plus tard. Mais donc, moi, ce que je dis dans ce chapitre, c'est que on va avoir des priorités globales, c'est-à-dire développer des plateformes techniques par des grosses fondations, et on va avoir des systèmes locaux qui n'arrivent pas à s'approprier les savoirs et les savoir-faire, qui font face à des enjeux de propriété, qui n'arrivent pas à récupérer les softwares, qui font face à des normes internationales et à une absence d'interopérabilité des systèmes, et surtout avec des coûts des dispositifs qui sont astronomiques et qui font qu'en fait, ils ne peuvent pas reprendre ces coûts pour eux et qui créent une dépendance vis-à-vis des gros opérateurs du Nord, que ce soit des fondations ou des opérateurs téléphoniques. Donc voilà pour la partie bill de l'histoire. Maintenant, je voudrais brièvement parler de la partie qui est très importante pour moi, qui est la partie qui est du chapitre 6, qui est aux interceptions technologiques et aux inégalités genre de ces dispositifs, parce que donc on peut s'intéresser donc aux enjeux globaux, aux opérateurs, on pourra en reparler, mais surtout la question qui arrive en permanence, c'est est-ce que tout ça, ça améliore la santé des femmes? C'est quoi les conséquences concrètes de ces dispositifs sur la santé des femmes? Donc cette question-là, bien sûr, c'est pas très facile d'y répondre, d'autant plus que ces opérateurs passent leur temps à dire qu'ils font des essais randomisés, des évaluations de leurs programmes, et puis quand on regarde des années après, en fait, ils ne publient aucune donnée sur l'impact en termes de santé de ces dispositifs. Quand j'ai fait l'enquête au Ghana, je suis partie avec l'école de santé publique du Ghana, qui était en charge de collecter des données sur le dispositif sur quatre points différents d'évaluation vraiment de l'impact de MoTeC sur l'amélioration de la santé maternelle, qui était donc l'accès aux consultations anténatales, l'accès aux consultations postnatales, le poids du bébé à la naissance et si les femmes avaient accouché à l'hôpital. Sur ces quatre facteurs d'évaluation, aucune enquête et aucune donnée n'ont jamais été publiées par les chercheurs ghanéens, qui étaient des sous-traitants pour la Fondation Gates, et la Fondation Gates n'a jamais publié les résultats de cette enquête. Par contre, mes collègues ghanéens avec qui je suis partie sur le terrain, eux, ce qu'ils me disaient, c'est que sur ces quatre critères, il n'y avait aucun critère aucune amélioration de la santé maternelle sur ces quatre points après la mise en œuvre du dispositif MoTeC. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact si ça n'a pas un impact positif sur la santé? Normalement, c'est censé transformer les femmes et leur rapport à la maternité, et c'est censé leur donner le pouvoir. Donc, ce qui est mis en avant en permanence par ces dispositifs, c'est comment est-ce que les femmes sont empowered par le dispositif MoTeC et comment est-ce qu'elles ont appris énormément et qu'elles sont devenues beaucoup plus conscientes des enjeux de santé. Donc là, je vous ai mis deux citations, une la première au Ghana et la deuxième en Inde, de ceux qui mettent en œuvre les dispositifs et qui disent en gros maintenant, grâce au dispositif MoTeC, les femmes qui ont été inscrites au dispositif savent ce qui est bon. Donc il y a aussi, c'est le good behavior. Pareil en Inde, l'idée c'est de educate them, donc d'éduquer les femmes, to demand not what's just available, but what is a healthy behavior. Donc tout l'enjeu du dispositif, on est vraiment sur de la santé comportementale. J'ai fait un papier uniquement sur ça, sur comment est-ce que ce dispositif est un dispositif de santé comportementale. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est changer les comportements des femmes avec des dispositifs franchement assez ringards quand on connaît les théories de l'information et de la communication, puisqu'on part du principe qu'en envoyant un message vocal hebdomadaire qui dure 2 minutes à une femme, elles vont changer leur comportement de santé. Mais c'est vraiment le concept qui est central dans le dispositif. Et qui part du principe que, bien sûr, comme les femmes ont accès à un téléphone portable, elles vont écouter ces messages et elles vont enfin avoir accès à des informations de santé maternelle. Bon, alors bien sûr, moi, quand je suis arrivée sur le terrain, la première chose dont je me suis rendue compte, c'est que l'accès au téléphone portable par ces femmes, il était loin d'être évident. Donc là, je vous mets en avant une carte qui a été faite donc par la GSMA, donc qui sont quand même les industriels du numérique, qui met en avant les écarts de genre en termes de ownership, donc posséder un téléphone portable dans les low and middle income countries. Comme vous pouvez le voir, donc l'écart, en global, une femme, elle a 14% de chances de moins qu'un homme de posséder un téléphone portable. Mais cet écart, on peut le voir donc en Asie du Sud, donc par exemple en Inde, il monte à 38%. Donc on est sur un accès au téléphone portable pour les femmes. Déjà, là, on étudie quand même des zones de ruralité dans lesquelles la mortalité maternelle et infantile sont hyper élevées. Donc on n'est pas dans de la grosse métropole. Donc on va se rendre compte que cet écart, hein, d'accès au téléphone portable, il est énorme. Donc déjà, le premier principe qui est de dire qu'il y a une évidente accessibilité au téléphone portable dans ces contextes-là, ben, je le remets en cause et ça s'est révélé particulièrement important dans l'enquête qui a été faite auprès des femmes au Ghana et en Inde. C'est qu'il y a un accès très inégalitaire au téléphone portable, déjà donc la possession du téléphone portable, mais ensuite aux usages. Il y a un écart entre l'échantillon ghanéen et indien, il y a un meilleur accès au téléphone portable pour les femmes au Ghana, qui est lié à une autonomie financière plus grande, parce qu'un accès au marché du travail plus important qu'en Inde. Il faut savoir qu'en Inde, il y a moins de 10% des femmes qui travaillent et qui ont un salaire lié à ce travail. Donc, parce qu'elles n'ont pas d'autonomie financière, elles vont avoir moins encore accès au téléphone portable. Les femmes que j'ai rencontrées au billard qui avaient accès à un téléphone portable, la plupart du temps, dans 80% des cas, c'était parce que leur mari travaillait en dehors de l'état du billard et donc il y avait un téléphone portable accessible à la maison parce qu'il n'y avait pas d'homme de référence dans le foyer. Donc la propriété du téléphone portable, c'est un premier enjeu inégalitaire, mais les usages même, on a fait une étude des usages du téléphone portable, sont aussi genrés. L'exemple du billard donc de l'Inde est particulièrement illustratif des inégalités de genre et surtout de la domination masculine qui est liée au téléphone portable. Je vais prendre des exemples là indiens, mais en fait la situation, si elle est moins exacerbée au Ghana, elle est quand même très très similaire en matière d'inégalités genrées. Donc, un accès genré au téléphone portable, donc ça c'est des citations qui viennent de l'Inde. Donc, je ne touche pas son mobile, il dit que je ne sais pas comment le faire fonctionner, que je pourrais l'abîmer et qu'après il ne fonctionnerait plus par ma faute. J'ai mon propre mobile mais il ne marche plus. Une autre femme du groupe réagit, j'ai aussi un mobile qui ne marche pas, la batterie ne se charge pas. Donc, quand les femmes ont accès à un téléphone portable, souvent c'est un téléphone portable qui appartient au mari ou au père ou au beau-père ou au frère. On va dire un homme de référence du foyer, et très souvent elles ont accès de manière courte, éphémère et sous responsabilité d'un homme. Si elles ont des téléphones, très souvent c'est des téléphones qui ont été donnés par les hommes parce qu'ils ne fonctionnent pas bien, moins bien et qu'ils n'en veulent plus. Donc il y a cet écart d'accès, c'est-à-dire quand elles vont avoir des téléphones, très souvent ils vont être dysfonctionnels. C'est le cas de plus de 10% de l'échantillon des femmes qui ont accès à un téléphone portable, que ce soit en Inde ou au Ghana. Donc on voit qu'elles ont un accès, qu'elles ont un accès au téléphone à des terminaux très limités. Et ça va avoir des conséquences sur leur capacité à accéder aux messages, à pouvoir les écouter, etc. Elles vont avoir aussi un accès au crédit téléphonique qui est beaucoup plus limité. Si jamais elles ont un téléphone portable, la plupart du temps, c'est pas elles qui vont le recharger, mais ça va être leur mari, leur frère, leur père. Elles vont parfois appeler leur mari, qui est plus loin, en utilisant un autre téléphone pour qu'il recharge le crédit, mais ça prend du temps, comme cette femme qui dit, des fois ça prend 10 jours, des fois un mois. Donc en gros, elles ont des téléphones, quand elles ont des téléphones portables, elles ont des téléphones portables qu'elles utilisent assez rarement. En tout cas, trop rarement pour pouvoir s'en servir quotidiennement, pour pouvoir écouter ces messages et pour pouvoir avoir un véritable accès à cette information. Donc ça, c'est des inégalités d'accès au téléphone portable, c'est les plus évidentes, c'est une reproduction, une reconduction de la domination masculine qui est déjà présente dans les sociétés ghanéennes et indiennes, mais on va dire que le dispositif va venir appuyer assez fort sur ces inégalités de genre. Donc des inégalités qui sont aussi des inégalités économiques, puisque comme je vous le disais, il y a des écarts très importants de revenus entre les femmes et les hommes dans ces foyers, qui vont se traduire directement dans des inégalités de dépenses dans le téléphone portable. Donc là, on voit cette femme qui dit que son mari dépense entre 4 et 6 euros par mois pour son mobile, alors que elle dépensera entre 10 et 30 centimes d'euros. Ces inégalités économiques et financières, elles se transmettent directement dans les usages possibles du téléphone portable. Et enfin, des inégalités de mobilité. Les femmes ne... Donc par exemple, cette femme... Toutes ces situations, elles viennent de l'Inde. Donc, je ne suis pas autorisée à sortir de la maison parce que je suis une belle fille. Donc, c'est des femmes jeunes qui vivent dans leur belle famille. Ici, on ne trouve pas de recharge téléphonique. Il faut aller à Bikram pour ça, à 2-3 km. Comment les femmes iraient-elles là-bas? Les femmes ont une mobilité restreinte. Elles ne peuvent pas se déplacer comme elles le souhaitent. Et donc, pouvoir aller acheter des recharges, recharger son téléphone, en fait, c'est compliqué pour ces femmes et ça va, en gros, renforcer ces inégalités de mobilité, puisque maintenant c'est possible de recharger le téléphone portable à distance. Donc en gros, elles vont être confinées encore plus au foyer, elles sont joignables par le téléphone portable et les hommes peuvent recharger ces téléphones. Donc en fait, quelque part, ce qui va se passer, c'est que ces femmes, elles vont être encore plus confinées chez elles et elles vont être joignables sans pouvoir elles-mêmes être autonomes dans la façon dont elles vont utiliser ce téléphone portable. Donc on voit très bien comment est-ce que le téléphone portable, c'est une réification de la domination masculine dont parlait Delphine Gardé, par exemple, pour la machine à écrire au début du XXe siècle. Donc les usages du téléphone portable, ils vont être différents selon les sexes. Ils sont restreints, bien sûr, pour les femmes par rapport à ceux des hommes. Et le mobile va venir renforcer la prise directe des hommes sur les femmes et incarner cette domination masculine déjà en place. Donc je n'ai pas voulu me restreindre uniquement à cette question de la domination masculine. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, il y a différents degrés de détermination qui sont liés à ce dispositif. Et en fait, je voulais, à travers l'étude multisituée, voir comment est-ce qu'en fait, ces inégalités, elles jouaient différemment entre le Ghana et l'Inde, et elles venaient appuyer différemment sur, on va dire, différents aspects, ce que j'ai utilisé les analyses intersectionnelles pour ça, différentes intersections d'inégalités. Je vais juste vous donner deux exemples qui sont développés dans le chapitre 6 de niveaux d'intersection et d'inégalités particuliers. J'ai pris comme exemple une relation interpersonnelle qui est la relation soignant-soigné, qui est particulièrement importante dans le dispositif MoTeC. Et on va voir comment est-ce que les enjeux d'inégalité vont jouer différemment entre le Ghana et l'Inde avec un même dispositif technique. Et on va dire au départ un même dispositif d'intégration sur le terrain. Donc, comme je vous l'ai dit, le dispositif, c'est les travailleurs de santé communautaire qui inscrivent les femmes, et donc c'est le point d'entrée du dispositif MoTeC. Et on va le voir, cette relation soignant-soignée, elle va venir transformer ou avoir un impact différent entre les deux pays pour un même dispositif technique. Donc en Inde d'abord, on est sur une relation au départ de confiance entre les femmes et les travailleuses de santé communautaire. Comme le dit cette femme, les travailleuses de santé, peu importe ce qu'elles disent, je les crois. Ces femmes sont des femmes qui sont issues des villages aux alentours, qui donc sont payées par le ministère de la Santé pour aider les femmes sur leurs questions de santé. Donc c'est des femmes issues de la communauté, c'est des femmes qui sont assez respectées et écoutées dans les villages indiens. C'est des femmes qui sont payées avec des dispositifs, maintenant elles ont un socle de salaire de base, mais elles sont payées avec des dispositifs qu'ils appellent d'incentive, donc elles ont pour chaque type d'activité de santé qu'elles font des bonus, elles sont payées pour ces bonus. Elles amènent une femme au centre de santé pour accoucher, elles vont toucher 500 roupies, voilà. Et dans le même esprit, le dispositif Motec a mis en place un mécanisme d'incentive. C'est-à-dire que pour chaque femme inscrite au dispositif par une travailleuse de santé qui écoutait 4 messages d'affilée, 20 roupies de crédit téléphonique étaient créditées sur le téléphone portable de la travailleuse de santé. Et en fait, ça, c'est venu créer une relation inégalitaire importante, parce qu'il faut savoir que déjà, ces travailleuses de santé font partie des rares femmes dans les villages qui ont un salaire, et donc une autonomie financière plus importante. Donc déjà, par rapport aux femmes qu'elles croisent dans les villages, elles sont financièrement plus autonome, mais là, ces femmes se sont retrouvées à apprendre ce dispositif de crédit téléphonique et à dire à la travailleuse de santé qui l'a le dit, une femme m'a dit du crédit est prélevé de mon compte mobile et il va directement dans votre compte. Les femmes, en fait, ont été particulièrement choquées par le fait que elles devaient payer pour recevoir des messages téléphoniques, une roupie par message, et que du coup, la travailleuse de santé, elle, allait toucher 20 roupies de crédit en inscrivant les femmes. Donc on voit au départ qu'on avait une relation soignant-soigné qui était inégalitaire, qui est toujours inégalitaire, avec des écarts de ressources aussi qui étaient importants, mais qui était une relation relativement de confiance entre ces femmes et ces travailleuses de santé, et que le dispositif va venir volontairement appuyer sur cette inégalité financière et va dégrader la relation entre les femmes et les travailleuses de santé, va en fait venir créer un conflit, une relation conflictuelle en raison de ces enjeux du crédit téléphonique. Donc au Ghana, on va voir que le dispositif était gratuit, donc comme je vous l'ai dit, et donc au départ les femmes, elles ont été enrôlées un peu massivement, donc comme cette femme le dit, quelqu'un m'a appelé, m'a dit que j'avais été enregistrée à Motec sans même qu'on m'ait expliqué de quoi il s'agissait. Et en fait, au départ, au Ghana, la relation soignant-soigné n'est pas une relation de confiance comme en Inde, mais au contraire, une relation de méfiance. Les femmes, donc les travailleuses de santé communautaire, très souvent, elles viennent de la ville, elles sont pas issues de ces villages-là, souvent elles sont postées là un peu contre leur gré, c'est un peu le pire posting qu'on peut avoir, c'est de se retrouver dans un village à 400 km de la ville où on a été formé. Donc il y a au départ une relation qui est très difficile au Ghana entre les travailleuses de santé communautaire et les femmes. Et donc ces femmes, elles ont eu l'impression d'avoir été enrôlées comme ça dans le dispositif sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. Mais par contre, elles ont l'impression que de rentrer dans le dispositif, ça a amélioré leur relation avec les sages-femmes et les infirmières. Comme le dit cette femme, par exemple, j'ai le numéro d'une des sages-femmes maintenant, sans Motec, elle ne m'aurait jamais donné son numéro. Donc les femmes rencontrées au Ghana, elles vont décrire des relations difficiles avec les travailleurs de santé, mais elles vont vraiment voir Motec comme un dispositif qui va leur permettre de diminuer le rapport autoritaire avec les travailleuses de santé. Elles vont évoquer vraiment un rapport privilégié avec les soignantes à partir du moment où elles rentrent dans le dispositif Motec. Et elles vont dire, donc comme cette dernière citation, les infirmières sont plus volontaires et prêtes à vous aider plutôt qu'à aider celles qui ne reçoivent pas les messages Motec. Donc là, on le voit, ce qui s'est passé, c'est que le dispositif va venir améliorer une relation conflictuelle entre les travailleurs de santé. Mais en fait, quelque part, ces femmes, on le voit dans la dernière citation, elles dénoncent aussi une inégalité supplémentaire qui est créée par le dispositif. Parce que si la relation soignant-soignée, elle est transformée par l'introduction de dispositif Motec, en fait, pour les femmes qui sont exclues du dispositif Motec, ça veut dire un accès encore moins possible aux travailleurs de santé et donc aussi une dégradation de la relation. Donc on voit qu'entre les deux dispositifs, on va avoir une dégradation de la relation en Inde en raison des déséquilibres financiers, Mais au Ghana, si on a une amélioration d'une relation difficile au départ, cette compensation pour les femmes qui sont inscrites au dispositif MOTEC va signifier une détérioration pour les femmes qui sont hors du dispositif. Donc là, on voit très bien comment est-ce qu'en fait, les inégalités, elles se jouent complètement différemment avec un même dispositif en fonction du contexte d'insertion. Le dernier point, l'avant-dernier point, c'est sur la question, donc pareil, sur les enjeux d'inégalité différenciée, c'est sur l'accessibilité financière. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un écart important entre les deux dispositifs, puisque au Ghana, le dispositif est gratuit, alors qu'en Inde, le dispositif est payant. Donc ça, ça va avoir des conséquences dramatiques sur le programme en Inde, puisqu'en fait, payer une roupie, ça va être trop cher pour beaucoup de femmes. Et donc, contrairement au Ghana, elles vont pas rester sur le dispositif de manière très longue. La grande majorité d'entre elles ne vont même pas écouter plus qu'un mois les messages. Donc, on va avoir un coût qui est associé au mobile, qui est trop important pour les femmes du billard. Au Ghana, le problème ne se présente pas puisque le dispositif est gratuit et donc elles vont écouter les messages beaucoup plus longtemps. Et pour l'analyse, par exemple, des messages et de leur impact, ça sera beaucoup plus intéressant de l'étudier sur le Ghana que sur l'Inde, puisque l'Inde, on a un décrochage du dispositif qui est lié à l'accessibilité financière du mobile. Mais ce que prône le dispositif, c'est pas seulement d'écouter les messages. L'idée, normalement, c'est parce qu'on écoute les messages, on va aller dans les services de santé, on va aller faire ses consultations prénatales et postnatales, on va aller accoucher à l'hôpital. Or, ce qui est mis en avant en permanence par les femmes, c'est qu'en fait, on a des coûts associés à la santé qui sont importants. Et donc, l'accessibilité financière, elle ne se joue pas que sur l'accès aux dispositifs MOTEC, elle se joue sur l'accès aux infrastructures de santé qui sont coûteuses. Donc on le voit avec cette femme en Inde qui dit « j'ai dû dépenser de l'argent pour tout, les médicaments, les injections, la nourriture, les infirmières m'ont également demandé de l'argent ». Et au Ghana, quand nous commençons le suivi anténatal, la sage-femme devrait nous expliquer comment trouver l'argent nécessaire pour acheter toutes les choses coûteuses que la maternité demande pour l'accouchement. Donc là, on est sur de l'accessibilité financière de base, on ne peut pas dire aux femmes « allez au centre de santé pour vous faire soigner, allez au centre de santé pour accoucher », si de toute façon, on a des barrières financières trop importantes pour pouvoir accéder aux infrastructures de santé. Et cet écart et ces enjeux d'accessibilité financière, c'est ce qui va créer une friction très importante dans le dispositif, qui est l'écart entre les messages et la réalité des infrastructures de santé. Donc là, citation du Billard, ce qui est dit dans les messages n'arrive pas dans la réalité, les structures ne sont pas accessibles et je ne peux pas obtenir de visite médicale pour moi et mon bébé. Et au Ghana, les gens vont au centre de santé en pensant qu'il y a des infrastructures là-bas qui sont meilleures que si on reste accouché chez soi, mais en fait, il n'y a aucun vrai avantage à aller accoucher là-bas et en plus, c'est trop cher. Donc là, en fait, tous ces enjeux d'accessibilité vont faire que peu importe le type de message qu'on reçoit, si dans ces messages, on nous dit « allez à l'hôpital, on vous prendra en charge, on prendra soin de vous », c'est contre-productif, ça rajoute en plus une violence symbolique qui, pour de nombreuses femmes, est insupportable, qui est qu'elles disent « je sais qu'il faut aller accoucher à l'hôpital, je sais qu'il faut aller à la consultation anténatale, mais actuellement, si je veux y aller, je ne peux pas, c'est trop cher ». Je vais avoir des interactions violentes avec les travailleurs de santé et c'est la raison pour laquelle je n'y vais pas. Pour conclure, là je vous ai mis des exemples d'articles que j'ai écrits donc, sur ces différentes questions et bien sûr le livre. Mais je voulais vous montrer deux aspects très différents de MOTEC. C'est que en gros, MOTEC est censé être une bonne technologie d'information qui va permettre de contrebalancer de multiples inégalités d'accès à la santé, d'inégalités de genre, dans un contexte en fait sanitaire et social qui est très différent entre le Ghana et l'Inde. En gros, mon analyse, elle voulait montrer que cette promesse de solution technologique miracle, neutre, qui permettrait d'améliorer la santé maternelle, elle ne se réalise pas sur le terrain et qu'en fait ces technologies elles sont loin d'être neutres, vous avez vu, elles vont déplacer des inégalités, modifier des relations localement, elles vont avoir des conséquences concrètes sur la relation soignant-soigné. Là je le développe pas, mais elles ont des conséquences concrètes sur le management de la santé et sur la gestion des données de santé aussi, ça je le développe dans deux autres chapitres. Et en gros ce qui est important, et c'est ce que j'ai voulu faire à travers cette enquête, c'est vraiment d'analyser plus finement qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de ces dispositifs techniques? Parce que très souvent, on a des analyses macro qui vont dire, ah ben voilà, les gros financeurs, ils font ça. Et puis, on va avoir des analyses micro qui disent, ah ben les femmes, elles écoutent les messages, elles entendent ci ou ça. Et en fait, très souvent, c'est dur de connecter les deux à travers un peu un continuum analytique. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans le livre. Maintenant, c'est très dur de le présenter en 45 minutes. Donc j'espère que j'ai mis un peu plus de temps d'ailleurs. Désolée. Mais du coup, je pense qu'on peut surtout en discuter. Mais l'enjeu méthodologique, c'était de réussir en gros à relier ces différentes analyses et échelles. Et j'espère que dans le livre, c'est clair. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette présentation qui est vraiment passionnante et très riche. Et c'est vrai qu'on aurait eu envie d'entendre tous les 6 chapitres. Ouais. Merci beaucoup. C'est une super invitation à lire tout le livre pour qui n'a pas fait. Je pense qu'on peut ouvrir une demi-heure de questions-réponses. Donc voilà, il y a...
Bon, en fait, question, merci pour la clarté, sans surprise, c'est aussi clair que le texte. Question classique, comment est-ce que tes terrains ont-ils évolué? Et donc, comment est-ce que les recherches actuelles s'articulent avec celles de la thèse? Et tu faisais référence aux nouvelles recherches sous les coups, donc peut-être c'est...
Ah oui.
Je ne sais pas.
Oui, comme je vous le disais, un des points qui m'intéressait, c'était la dimension argent, c'est-à-dire ce que j'ai fait après dans le cadre de mon post-doc à l'IFRIS, c'était vraiment d'identifier les nouveaux dispositifs de financement de l'accès aux soins qui utilisaient en gros de l'argent lié aux technologies numériques. Donc c'est ce que j'ai fait et je me suis intéressée à la financiarisation des politiques de développement à travers le numérique. Et donc ça, c'était donc des dispositifs au Kenya à travers quelque chose, je suis sûre que vous connaissez, qui s'appelle M-Pesa, donc qui est le plus gros portefeuille mobile d'argent mobile au monde, donc qui est un portefeuille mobile kényan et qui avait un programme, qui a toujours un programme de financement de la santé par de l'argent stocké sur les téléphones portables. Donc ça, c'était un des programmes. Et l'autre programme, qui était le programme de couverture santé universelle indien. Oui, sachant que le programme que j'ai étudié au Kenya est devenu la plateforme pour supporter la couverture santé universelle au Kenya. Donc dans les deux cas, il s'agissait en gros de programmes pour financer la couverture santé universelle qui s'appuyaient uniquement sur des dispositifs numériques. Donc j'ai étudié le programme indien qui lui utilisait donc une grosse base de données biométriques avec de la reconnaissance biométrique et un système de smart card avec des montants maximum à pouvoir dépenser couverts par l'État indien. Et donc j'ai vraiment regardé comment est-ce qu'on fait pour financer la santé avec des dispositifs numériques et quelles conséquences ça a en termes d'accès aux soins quand en fait on repositionne le financement de la santé et l'accès à la santé sur en gros des dispositifs qui sont gérés entièrement par des opérateurs privés. Et comment ça transforme, comment est-ce que ça transforme la façon dont on a accès aux soins. Donc j'ai vraiment suivi l'argent et notamment les assurances de santé, les gros opérateurs téléphoniques, voilà. Donc ça a donné lieu à un chapitre dans un ouvrage collectif sur financiarisation du développement qui est sorti je pense le mois dernier, qui est dirigé par F. Capello. Et donc voilà, et maintenant mes recherches sont en dehors du champ uniquement de la santé. Et là, j'ai un premier article qui sort dans le réseau, là, qui a été accepté avec deux collègues, une économiste du développement, Isabelle Guérin, un anthropologue de l'argent, Nicolas Lénès, tous les deux de l'IRD, sur comment l'argent numérique est une solution de développement. Et donc là, c'est vraiment comment les portefeuilles mobiles, le crédit digital est en train de transformer dans les pays en développement la façon dont l'argent est géré. L'argent, donc plus seulement la santé et
M-banking.
Ouais, c'est M-banking et M-credit aussi. Donc voilà, donc plus que la santé et aussi sur la digitalisation de l'État. Parce qu'en fait, toutes ces politiques de santé sont des politiques publiques. Donc comment est-ce que, en gros, le numérique vient transformer la relation à l'État? Et là, mes dernières enquêtes, c'est vraiment sur la relation administrative au niveau des villages. Et comment est-ce que quand on fait passer 100% de la relation administrative par le numérique, ce qui est le cas aujourd'hui dans beaucoup de pays en développement, comment est-ce que ça transforme notre relation à l'État dans des pays où la connectivité est quand même pas si bonne, hein, parce qu'on parle tout le temps de la très bonne connectivité dans les pays en développement. Dans les villages du Tamil Nadu et de l'Uttar Pradesh où on a fait nos enquêtes, les gens ont peu accès au téléphone, et à nouveau des inégalités genrées très fortes, des inégalités socio-économiques, des inégalités de caste en Inde, enfin, donc voilà. Donc ça, c'est mes nouvelles recherches.
Ne nous inquiétons pas, il y a Elon Musk et Starlink qui vont résoudre le problème de la connectivité partout.
Ouais, on verra, on n'y est pas encore, hein, mais on verra bien. Alors, il y a des questions, je ne les vois
oui,
pas.
Alors, il y en avait une qui est directement lisée. Elle demande dans quelle mesure ces deux programmes s'articulent justement avec des programmes d'identification biométrique.
Ah oui.
Il y avait avant Clément Gazul qui demande comment est-ce que les femmes en viennent à utiliser ces dispositifs au départ et en cours d'utilisation, est-ce que c'est facile d'abandonner ces dispositifs? Et puis, je pense qu'on peut faire un tour dans la salle.
Alors, le lien avec la biométrie, il est très fort, notamment sur les programmes indiens. Hein. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus aucun programme sociaux, on va dire, de l'État indien qui ne sont pas indexés à ADAR, donc qui est la base de données biométriques nationale, y compris les programmes de santé, de couverture santé. Il se trouve que, en fait, moi, RSBY, donc, que j'ai étudié au moment de mon postdoc, était en fait le programme pilote qui a donné naissance à ADAR, puisqu'en fait, il a été développé avant ADAR, et donc ça a été la première base de données biométrique, et donc ils ont testé dans le champ de la santé d'abord, et ensuite, 2 ans après, ils ont déployé ADAR. Donc en fait, dès le départ, la reconnaissance biométrique dans ces programmes, c'est le socle fondamental, et aujourd'hui, c'est le socle fondamental pour accéder à tout en Inde. Et je parle des services publics, mais aussi des services privés, puisqu'on ne peut plus avoir une carte SIM, un compte en banque, sans des identifications biométriques par ADAR. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, tout est à reconnaissance biométrique en Inde. C'est beaucoup moins le cas au Ghana, mais ça arrive. Et au Kenya, les opérateurs, les mêmes opérateurs comme Morpho, Idemia, qui ont développé ADAR, sont arrivés au Kenya et l'ont fait et ont commencé avec un sujet brûlant au Kenya qui était le monitoring des élections. Parce qu'en fait, au Kenya, il y a eu des histoires de violences liées aux élections et donc en fait, ils sont rentrés sur le sujet de la biométrie avec de la reconnaissance biométrique pour le vote et la régulation des élections, donc ils vont rentrer comme ça. Mais là aussi, on est sur du marché de la biométrie et on est sur des dispositifs de monitoring par biométrie. L'autre question, c'était
sur comment est-ce que les femmes en viennent à utiliser ces dispositifs au départ,
alors, bah, au départ.
Est-ce que c'est facile d'abandonner
Ouais, alors au départ, comme je vous disais, pour le Ghana, elles ont été enrôlées un peu de force. Elles n'ont pas vraiment décidé. Elles ont commencé à recevoir des appels sur leur téléphone. Et ce n'était pas possible d'en sortir, c'est-à-dire elles ne pouvaient pas opt-out du dispositif. Mmh. Donc, assez intrusif, et donc il y a des femmes qui m'ont dit « Oui, ben moi, quand je vois que c'est ce numéro-là, je ne réponds pas. » Donc, c'est facile. On peut s'extraire du dispositif simplement en ne répondant pas au téléphone. Pour le billard, ce n'était pas la même chose, parce que comme il faut payer à chaque message, ils sont obligés de demander si on veut bien payer pour le prochain message. Donc, il suffit de dire non pour être désinscrit du dispositif après chaque message. Mmh. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a eu un niveau d'abandon au programme très, très rapide pour la plupart des femmes. Donc oui, c'est facile de s'en sortir du dispositif. Après, moi, j'ai fait aussi toute une partie d'analyse des messages et de leur réception. Et c'est vrai que j'avais pas mal de matière sur la partie ghanéenne. Pour l'Inde, ça a été très compliqué de trouver des femmes qui se rappelaient des messages, qui se rappelaient des contenus. J'en ai trouvé, hein, mais c'était beaucoup plus difficile, puisqu'en fait, elles avaient écouté très peu de messages, qu'en plus, très souvent, c'était en hindi, fait depuis Delhi, qui était un langage urbain qu'elles ne comprenaient pas. Enfin, vraiment, en termes de réception des messages, c'est un échec catastrophique sur la version indienne, quoi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mm-hmm. Voilà.
Merci. Je peux prendre d'autres questions, Olessia.
Moi, j'ai une question par rapport à, disons, contexte plus large de développement, parce que bon, c'est vrai que c'est pas un exemple unique. Quel est en fait le rôle des organismes de développement plus classique, des organismes transnationaux, etc., dans cette histoire? Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que c'est un circuit totalement parallèle construit par Bill Gates, etc.? Donc, est-ce qu'il y a tout un rapport? Bon, après, on voit bien la même continuité au niveau, disons, des idéologies de développement et même des techniques. Le schéma crée des besoins pour créer des dépendances. Enfin, c'est assez connu. Et donc, dans ce cas précis, est-ce qu'il y a des liens? Et puis, plus concrètement, par exemple, comment ces besoins, la question des besoins, pourquoi c'est toujours dans les deux cas les femmes enceintes et la maternité qui sont ciblées en priorité, alors que bon, il y a d'autres problèmes de santé publique dans ces pays-là? Donc, bon, est-ce que c'est pas la facilité pour les identifier? Enfin, donc, peut-être que vous avez quelques pistes pour répondre. Et voilà, peut-être comment ces besoins sont en fait légitimés aussi par les fondations, par les créateurs de ces dispositifs. Est-ce qu'il y a un rapport avec les organismes de santé nationaux, peut-être pour identifier ces besoins, pour les justifier, en fait, l'intervention dans ces domaines-là?
Ok, complètement. International et les besoins. Alors, les liens à l'international, il y en a bien. Que ce soit sur le programme MoTeC ou sur d'autres programmes que j'ai étudiés après, il y a des financements des grosses agences d'aide au développement. Par exemple, l'AFD a financé en partie le dispositif sur M-PESA de couverture santé universelle. DFDI, la banque d'aide au développement britannique, a été un des premiers financeurs initiaux, par exemple, de M-PESA. Il y a des liens aussi dans les arènes internationales, c'est-à-dire que quand la Fondation Gates est assise à l'OMS et qu'ils font la promotion de ces dispositifs de M-Santé, on est au cœur de l'interaction des très gros acteurs internationaux. Donc en fait, c'est un discours, c'est des dispositifs qui sont promus dans l'arène internationale. Au niveau des gros partenariats publics internationaux de santé, on voit émerger cette question des dispositifs numériques. Enfin, pourquoi? Parce qu'elle est poussée par des acteurs précis, en l'occurrence par les acteurs du numérique. Donc oui, il y a des interactions et il va y avoir de plus en plus d'agences qui du coup vont embrasser ce type de dispositif-là. Quand j'étais au Ghana par exemple, il y avait USAID qui mettait en place des dispositifs équivalents avec des plateformes aussi gérées par la Fondation Gravine et tout ça, avec des programmes franchement... avec des systèmes d'alerte envoyés aux personnes séropositives pour leur rappeler de prendre leur traitement, avec des conseils nutritionnels, les mêmes types de plateformes pour les séropositifs, gérés pareil par des opérateurs privés, avec derrière des problèmes de confidentialité des données, de revente des fichiers, enfin, très problématiques. Et là, on est sur des grosses agences onusiennes. Donc, oui, les acteurs internationaux ont embrassé ça complètement, quoi. Et comme je veux montrer, la Banque mondiale qui dit aujourd'hui, il faut récolter les dividendes du numérique, quoi. C'est-à-dire, et on est sur le rapport mondial du développement, quoi. On estime qu'aujourd'hui, le développement pourrait répondre, ce sera le numérique, le pilier central. Donc, en fait, on est vraiment sur... un avis collectif, général, dans ces arènes, qui est de dire oui, c'est la nouvelle solution au problème de développement. Alors ensuite, la création des besoins versus des marchés. Ben moi, je suis quand même atterrée, parce qu'à chaque fois que ces dispositifs sont déployés, on ne fait jamais d'enquête préalable sur les véritables besoins. Et c'est ça, c'est parce que je pense qu'en fait, au départ, les enjeux de ces plateformes sont tout autres que juste ce petit enjeu-là, ce petit besoin-là de santé. C'est-à-dire qu'au départ, la plateforme MoTeC, que ce soit de la santé maternelle, c'est juste un accident ou une opportunité. Mais en fait, en vrai, eux, ils ne veulent surtout pas faire un truc qui est sujet spécifique. Ils veulent faire une plateforme qui peut être utilisable, que ce soit pour les séropositifs, les femmes enceintes ou les agriculteurs. Donc en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Et d'ailleurs, au départ, la base de données des messages de MoTeC, moi j'avais vraiment trouvé ça dingue, c'est qu'ils avaient récupéré une base de données de messages qui avait été faite par la fondation Johnson & Johnson, donc qui est un énorme laboratoire pharmaceutique qui a énormément de produits en périnatalité et en santé maternelle, qui avait fait une app pour les Américaines pour leur suivi maternel. Et ça leur pose pas de problème de prendre cette base et de dire, ben voilà, on va juste traduire les messages et les améliorer pour les femmes ghanéennes. Mais bon, et donc c'est pour ça le truc du besoin spécifique de la santé maternelle. Mmh. En fait, je pense que c'est juste un phénomène d'opportunité. C'est un enjeu de santé important.
C'est plus lucratif peut-être, parce qu'en effet, comme ces femmes disent, pour attirer des femmes dans l'hôpital, il faut acheter des équipements assez coûteux.
Je pense qu'il y a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs enjeux. Il y a un, en fait, c'est pas une maladie grave. Donc, le type de message, il n'y a pas besoin, en fait, il n'y a pas besoin d'être.
C'est pas une maladie.
D'être super sharp sur le plan des connaissances médicales, pour faire des messages du type. Rendez-vous à votre consultation en état natal ou manger du fer, enfin des trucs comme ça. En fait, ça demande moins de compétences techniques que par exemple du suivi en cancérologie, clairement. Et puis de toute façon, le suivi en cancérologie en Ghana rural, c'est quand même pas top non plus. Donc en fait, c'est plus facile. Il y avait un enjeu qui était dans le cadre des développements du millénaire, des enjeux de développement du millénaire. Là, il y avait un enjeu de réduire la mortalité maternelle et infantile. Et donc, ils se sont insérés là-dedans aussi pour justifier les programmes. C'était pratique. Donc voilà, en fait, pour moi, c'est un phénomène d'opportunité, quoi. Et d'ailleurs, après, ils ont diversifié, et puis aujourd'hui, je vois ces programmes, ils sont sur d'autres trucs, quoi. Sur l'entrepreneuriat, sur l'agriculture, sur d'autres sujets, quoi. C'est rentré par la santé, parce que la santé, c'est un peu incontestable. Quand on dit on va répondre à des enjeux de mortalité maternelle et infantile, on est vachement moins attaquable que quand on dit on va vendre de la micro-assurance aux agriculteurs, quoi. C'est plus touchy, quoi. Voilà.
Dans la manière dont se déploient ces dispositifs numériques de santé, etc., est-ce que vous estimez qu'il y a davantage une unité entre ces différents dispositifs, quel que soit les lieux d'implantation, ou est-ce qu'il y a des différences culturelles importantes? Est-ce qu'il prime en fait entre l'uniformité technique et les spécificités culturelles?
C'est une bonne question. Alors, déjà, au départ, il y a une uniformité technique qui est qu'on part avec un seul noyau technologique. Donc, l'unité, elle est là. Et après, il y a ce qu'ils vont appeler des customisations nationales ou locales. Mais c'est assez cosmétique, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser des dispositifs techniques qui sont les mêmes. C'est juste qu'ils vont customiser, par exemple, le contenu des messages, ça bien sûr, mais pas que ça. Par exemple, sur les formulaires, ils vont être obligés d'adapter. Les types de données qui sont rentrées vont pas être les mêmes en fait entre les deux pays, parce que le suivi fonctionne pas pareil. Donc ils vont customiser, par exemple. Mais la customisation, elle va pas très loin à mon goût, quoi. On n'est pas vraiment dans un dispositif qui serait né localement et qui, comme je le disais, qui serait né par exemple des dispositifs numériques qui existent déjà localement ou des types de données qui sont déjà collectées au niveau des centres de santé. Là, on serait vraiment, si ça commençait par là, on aurait vraiment un dispositif très différent. Donc en fait, ce truc d'adaptabilité au contexte local, ils n'arrêtent pas de le dire, mais c'est de la traduction en gros, et c'est de la traduction pas bien faite, enfin, c'est-à-dire que c'est de la traduction sur de par exemple, qui n'utilisent pas les langues qu'il faudrait qu'ils utilisent, ils n'ont pas fait de test assez sur la réception des messages, mais parce qu'en fait, je pense que ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire une plateforme qui transfère des données, qui transfère de l'argent. Parce que ce truc des crédits, faire payer les femmes à roupie et créditer de l'argent sur les travailleurs de santé, pourquoi ils font ça? Je veux dire, c'est débile, ils n'ont pas besoin de ces 1 roupie par femme. Ils le font parce qu'ils ont besoin de tester l'infrastructure financière. Ils ont besoin d'avoir une plateforme qui gère de l'argent par l'intermédiaire du crédit téléphonique et des opérateurs mobiles. C'est pour ça qu'ils mettent ça en place. Ils n'en ont pas besoin d'une roupie des femmes, ils peuvent les financer avec leurs 90 millions de dollars. Ils le font parce qu'ils ont besoin de tester une infrastructure financière. Et donc
pourquoi,
voilà.
Pourquoi ils l'ont pas fait au Ghana?
Ben parce que je pense que c'était trop tôt au Ghana et qu'au départ, ils n'y avaient pas pensé. Et puis après, ils se sont dit, ah, mais il faut réussir à financer ces dispositifs sur le long terme. On va tester comme ça, quoi. Et effectivement, ils ont pu construire une infrastructure financière, quoi, robuste avec le test indien, quoi.
Quelques questions par Eve dans le chat. Comment le projet dispositif a-t-il été évalué dans ses différentes phases? Est-ce qu'il y a eu des retours de la Fondation suite à des critiques au préalable par la suite? Et comment prévoir les projets à venir qui, du coup, risquent de s'en inspirer?
Alors, j'ai fait un article qui a été publié il y a quelques années dans STHVR sur comment au départ le dispositif MoTeC avait été conçu sur un RCT, donc un essai randomisé, donc avec une très grande idée de la production scientifique autour de l'impact du dispositif, qui n'a jamais vu le jour, qui a capoté et qui donc n'a jamais produit de résultats. Puis ensuite, des dispositifs qu'ils appelaient d'évaluation expérimentale, qui étaient censés démontrer l'impact positif du dispositif. Il n'y a jamais eu aucune étude qui a été publiée sur autre chose que de dire que les femmes ont écouté des messages et qu'elles étaient contentes de recevoir ces messages. Voilà. Donc, on n'est jamais allé plus loin que ça. Sur la diffusion des résultats et de mes retours vis-à-vis de la Fondation Gates, bien sûr, je les ai interviewés, donc les différents maîtres d'œuvre de dispositif MoTeC, je les ai interviewés, et donc une fois que j'avais fini ma thèse, je suis allée leur présenter mes résultats. Et c'était très intéressant parce que bien sûr, ils sont très agiles et ils reçoivent la critique et ils l'intègrent. Donc, par exemple, quand je leur ai fait l'analyse de la réception des messages, et par exemple côté indien où c'était tellement catastrophique, où je leur disais, mais vous vous rendez compte que vous avez, que les femmes n'écoutent pas les messages, en écoutent très peu, et que ce dont elles se rappellent, c'est que vous n'arrêtez pas de dire que c'est gratuit alors, dans les messages alors que rien n'est gratuit. Et je me rappelle la chef de projet qui disait, ah ben voilà, en fait ce qu'il faudrait faire dans les prochains messages, c'est qu'on enlève le terme gratuit. Donc ils sont agiles, ils reçoivent la critique et c'est sûr qu'ils s'en servent après pour améliorer les dispositifs, j'en suis certaine. Après, est-ce que ça change fondamentalement le socle, ce que je dis sur le solutionnisme technologique et le capitalisme créatif, ça c'est le socle fondamental, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas revenir sur le fait que ce qu'ils veulent c'est déployer des marchés qui seront durables et qui permettront de financer quelque chose comme la santé ou l'éducation qui sont des paniers percés et qui coûtent trop cher aux États, quoi. Donc ça, je pense que le socle idéologique de base, il n'est pas transformé. Après, les dispositifs vont faire des petits pas de côté pour peut-être mieux répondre à la critique, ça c'est sûr.
J'en ai une autre en ligne qui demande, est-ce que la problématique de la protection des données de santé a été abordée lors du développement de cette plateforme?
Ouais. Alors ça, du coup, il y a un chapitre dans le livre qui est consacré à la gestion des données parce que, et en fait, il y a plein de données sur la santé des femmes quoi, dans ce dispositif et que moi, bien sûr, je suis arrivée. En plus, j'ai travaillé pendant 8 ans dans le secteur public hospitalier en France. Je me disais, mais comment c'est possible de collecter ces données sensibles par des téléphones portables comme ça Et en fait, j'avais été hyper choquée parce que j'avais étudié d'autres programmes au Ghana, notamment le programme de USAID et les intermédiaires téléphoniques, donc qui renvoyaient les messages notamment aux séropositifs. Quand je suis allée faire les entretiens avec eux, ils me disaient, bah, en fait, si vous voulez, vous pouvez acheter la base des messages de USAID, par exemple, si vous avez besoin d'envoyer des messages à des personnes ciblées, que par exemple, vous êtes un laboratoire pharmaceutique, ou tout ça, on vous fait la customisation de fichiers grâce à tous nos partenaires pour qui on travaille. Donc moi, ça m'avait vachement choquée, d'autant plus que le Ghana, à l'époque, était un des seuls États d'Afrique subsaharienne qui avait une data protection law. Du coup, je me disais, mais super, il y a une data protection law, on est sauvés. Et il y a même une agence de la protection des données au Ghana. Donc du coup, je me suis empressée d'aller rencontrer la chef de l'agence de la protection des données qui était seule dans un bureau à me dire « Je ne peux rien faire, je n'ai pas les moyens, je n'ai même pas de contrôleur qui devrait aller. » Elle me dit « J'ai des signalements sur lesquels je ne peux rien faire. » Donc en gros, une agence, une loi, une agence de protection des données, zéro effectif pour pouvoir mettre en œuvre cette politique de protection des données. Et je ne parle pas du cas de l'Inde, où on est actuellement dans un draft de nouvelles lois sur la protection des données et sur le numérique, qu'on attend depuis 5 ans, à cause de Aadhaar notamment, avec quand même 3 jugements de la Cour suprême indienne qui disent qu'il faut réglementer ces données et qui ne sont toujours pas réglementées. Donc en gros, dans le cas du Ghana, j'en parle dans le chapitre qui est consacré à ça dans le livre, c'est Ok, on a une loi, on a une agence, on n'a pas de moyens, donc en gros, les infractions, elles sont quotidiennes, parce que de toute façon, il n'y a personne pour vérifier rien. Donc, est-ce que ça sera également le cas de l'Inde une fois qu'il y aura une loi? C'est très probable. Hein. Donc, ouais, l'enjeu de la protection des données, il est central, et là, on parle de la donnée sensible, quoi. On est vraiment sur de la donnée de santé, c'est-à-dire que sur... dans ces formulaires, on sait si elles ont de la pression artérielle, si elles ont fait des fausses couches, on sait tout, tout le dossier médical, quoi. Et ça, c'est l'exemple de Motec, mais plus récemment, sur le projet Kenyan, moi, j'étais très, très choquée parce que on sait exactement ce que les gens utilisent de leur couverture santé. On sait quels actes médicaux, quels médicaments, où est-ce qu'ils sont allés, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et là, les gens qui ont accès aux données, très clairement, c'est les laboratoires pharmaceutiques qui sont partenaires de la couverture santé, comme Pfizer, c'est des très grosses fondations privées et qui peuvent après, derrière, mouliner ces données. Et là, les opérateurs le disent directement pour pouvoir mieux connaître leur possibilité de pénétration sur le marché kényan. Donc là, on est dans un discours ouvert qui dit on ne peut pas financer autrement la santé que par de l'argent qui vient de tiers. Ces tiers, ils sont prêts à payer pour avoir de l'information de santé qu'ils n'arrivent pas à obtenir autrement. Donc maintenant qu'ils ont accès à ce nouveau marché des données de santé, eh ben on peut financer la santé grâce à ça. Donc en fait, ce truc de la protection des données, c'est un enjeu énorme parce que là, on fait un business sur la vente de ces données de santé.
Oui, je pensais quand tu disais on ne peut rien faire, manque de ressources. Je viens d'avoir le représentant des Data Protection Optic Service en France dans ce panel qui m'envoie une étude qu'il vient de faire. Il dit les Data Protection Optic Service en France sont en souffrance de partout parce qu'il y a une déconnexion entre ce que. Voilà, tout ça pour dire que c'est.
Nous, on a la plusieurs chance contextes. D'avoir la CNIL, mais la CNIL, ils ont des moyens hyper limités. Comme énorme, ouais. C'est quand même c'est très difficile, quoi. Et on est très, très bien lotis. Là, au Ghana, ouais, l'agence, ils ont personne, quoi. Donc, oui, c'est un gros enjeu, la protection des données.
On peut prendre éventuellement une dernière question, s'il y en a.
Bon, vous avez couvert beaucoup de sujets, on va parler de tout, mais concernant le fait que les organismes comme la Fondation Gates n'ont pas essayé de s'intégrer dans les systèmes d'information existants, n'ont pas essayé d'interopérer avec les systèmes existants. Bon, je me doute bien qu'ils n'ont pas vraiment essayé. D'un autre côté, est-ce que les systèmes existants fonctionnent vraiment? Parce qu'il y a aussi beaucoup de cas où il y a sur le papier un système d'information qui en pratique est... documenté, marche mal, et que bon, certainement la Fondation Gates n'a pas fait beaucoup d'efforts, mais s'ils avaient fait des efforts, est-ce que ça aurait pu marcher? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment d'existant?
Alors maintenant, avec le recul, parce que du coup cette enquête date de 2014-2015, maintenant je peux affirmer que oui. Parce qu'en fait, au Ghana comme en Inde, maintenant il y a des dispositifs de gestion de l'information de santé qui sont publics, in-house, et qui fonctionnent. Aujourd'hui, il y a, que ce soit le MCTS en Inde ou le DIMS au Ghana, aujourd'hui, le ministère de la Santé ghanéen et le ministère de la Santé indien fonctionnent avec ces systèmes dont ils sont propriétaires et qui gèrent vraiment l'information de santé dans les hôpitaux et les structures de santé. Donc, ils auraient pu, et si, dès le départ, ça avait été intégré, je pense que l'histoire du dispositif aurait été différente. Le problème, c'est aussi que c'est un enjeu idéologique dès le départ, c'est que la Fondation Gates ne veut pas travailler avec les États. En fait, les États sont juste des cautions pour pas être accusés de néocolonialisme évident, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de faire des partenariats avec les États parce qu'ils n'ont aucune connaissance du terrain, donc ils ont besoin des agents locaux, et aussi parce qu'ils peuvent pas débarquer dans un pays en disant « on fait ce qu'on veut ». Mais en fait, par exemple, ils ne donnent pas d'argent à l'amélioration des systèmes de santé. Les grants, elles vont que à des opérateurs privés, par exemple. Ils pourraient très bien dire, on veut mettre en place un système informatique de santé au niveau du ministère ghanéen et dire, ben, on donne 80 millions de dollars au ministère de la Santé ghanéen. Mais non, parce que les États sont dysfonctionnels, parce que les États sont corrompus, parce que les États gaspillent l'argent, parce que les États, c'est pas des entreprises, et que les entreprises, c'est comment mettre en œuvre le capitalisme créatif de manière durable. Donc en fait, dès le départ, il y a ce problème idéologique qui fait qu'on ne va pas donner d'argent aux États, parce que les États, c'est des gaspilleurs, les États sont inefficients. Donc en fait, c'est bien le problème. Et d'ailleurs, c'est des professionnels de l'évasion fiscale, ces gens. Ils passent leur temps à donner de l'argent à d'autres fondations pour être bien sûr que personne ne paye et ne prélève des taxes sur tous ces dispositifs. Parce que quand on a une fondation comme la fondation Gates, qu'on donne son argent à la fondation Vodafone, à la fondation Grameen, tous ces gens-là sont exemptés de taxes. Donc tout cet argent, il n'est pas taxé. Que ce soit en Angleterre, aux États-Unis ou dans les pays où c'est déployé, les États ne touchent rien de cette manne financière. Donc en fait, il y a quand même un truc, c'est qu'ils ne pensent pas qu'il y a une justice redistributive par l'intermédiaire de l'impôt, par exemple. Ils ne mettent aucun argent dans ce type de dispositif-là, de rétribution. Donc ils ne mettent pas l'argent dans les États, quoi. Donc en fait, il y a vraiment, dès le départ, il y a quand même une idéologie qui fait que on ne va pas aller aider les États de manière structurelle à fonctionner. Puisqu'en fait, on pense que la solution, elle vient de solutions privées et du marché.
Bah, ils disent quand même que leur premier objectif, c'est d'ouvrir une nouvelle part de marché.
Oui, mais d'ailleurs, ils sont très transparents. Mais tous, ils ont ce discours sur la santé, c'est pas gratuit, il faut qu'il y ait quelqu'un pour payer, il faut arrêter d'imaginer. Et ça, c'est très américain aussi. On a, en fait, la santé, ça se paye. Il faut que quelqu'un paye. Si les gens, ils n'ont pas d'argent, bah, on va demander à ceux qui ont de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a de l'argent? Bah, les grosses boîtes.
Dernière chose, le terme de philanthrocapitalisme, voilà, je suis curieux, c'est un terme plutôt journalistique, parce que je vois que tu me le...
Alors, je l'ai utilisé dans des papiers, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans le livre, non, alors c'est un terme... Non, maintenant, c'est un terme, le philanthrocapitalisme, donc l'idée, en gros, que... On va se servir de la philanthropie pour créer des nouveaux marchés. C'est une idée qui a été reprise aussi par des universitaires, notamment Anne-Emmanuel Byrne, qui a fait une étude historique de la différence entre les grands philanthropes comme Carnegie, Rockefeller, et aujourd'hui les philanthropes comme la Fondation Gates. Et elle, ce qu'elle dit, c'est qu'on peut vraiment parler de philanthrocapitalisme aujourd'hui avec les Gates, parce que contrairement aux Carnegie et aux Rockefeller, on est arrivé à un nouveau stade où en fait c'est l'argent philanthropique qui est un investissement pour déployer des nouveaux marchés. Et Lindsay McGoy, qui est aussi une chercheuse canadienne, elle pousse encore plus loin le truc, c'est-à-dire que Anne-Emmanuel Byrne, ce qu'elle dit, c'est qu'en gros on va avoir une privatisation de toutes ces programmes philanthropiques qui en gros ne bossent que pour développer des nouveaux marchés. Et Lindsay McGoy, ce qu'elle dit, c'est qu'elle pense même que c'est la source de nouveaux profits considérables. Ce qu'elle dit, c'est que le philanthrocapitalisme, en gros, c'est un moyen de faire du business qui rapporte plus. Donc elle va encore plus loin en disant les marchés de demain pour ces philanthropes vont être développés par le philanthrocapitalisme. En gros, c'est le meilleur moyen de pénétrer les marchés de demain, ce qui n'est pas complètement faux si on regarde les pays en développement. Quand vous ciblez un pays comme l'Inde, qui est le pays le plus peuplé du monde, avec une connectivité qui est encore faible, avec un delta de connectivité énorme, clairement, développer des marchés en Inde, c'est s'assurer son avenir.
En même temps, au meilleur, le MoTeC n'a pas beaucoup marché.
Non, mais par contre, les nouveaux systèmes de mobile banking, le microcrédit par téléphone portable, tout ça, c'est des nouveaux dispositifs qui sont en train de fonctionner de plus en plus. Donc, oui, c'est sûr que c'est les marchés de demain.
Merci beaucoup. Merci encore de votre présence en ligne, hors ligne, et à très bientôt. Au revoir.